auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui le lundi 16 juin et c'est la 15e d'I Love Mes Cheveux, une émission diffusée deux ou trois lundis par mois de 9h30 à 11h en direct et évidemment en podcast. Alors ce mois-ci, en juin, c'est 5 fois par mois en fait, hein, mais bon voilà. Je me suis un peu interrompu parce qu'on avait des petits problèmes de son visiblement dans le studio. C'est presque un classique avec moi. Alors I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal. Et à mes côtés, mes invités du jour, Claire Tasté et Emilien Cousin-Amelal de l'association EducPop Animaliste. Claire et Emilien, bonjour.
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 Ils sont là, elle et lui, pour parler de la Vegan Place du samedi 28 juin prochain à Tours et plus particulièrement du prix Maya 2025. Je close cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC 2025, tout attaché ILMC, ce sont les initiales de I Love Mes Cheveux. On peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, pour proposer même des émissions. On peut évidemment écrire pour demander à être invité, si c'est pertinent par rapport au thème de l'émission. Je serais très heureux de vous inviter. N'hésitez pas aussi à réagir en direct sur Insta ou sur Facebook, sous le poste avec le nom de nos deux invités. Et avant d'en venir à l'émission du jour, je rappelle que le générique, c'est l'excellent Julien Jacob, Chanty. Et donc, on commence avec notre première rubrique, le mot du jour. Et le mot du jour, il s'agit d'un mot dont j'ai appris en lisant un livre traduit du persan qu'il était d'origine russe. Vous voyez, on attaque tout de suite. Et ce mot, figurez-vous, c'est mazout. Et je vais vous lire un extrait de ce livre, Trainspotter, d'Essan Nourouzi, traduit par Sébastien Jallot aux éditions Zulma. Et je vous lis ce passage, et je n'ai pas bien noté la page. Si, c'est moi qui me trompe en feuilletant, je vais y arriver. Voilà, avec M. Zanuzzi, je pus vérifier tout ce que j'avais appris jusque-là sur les trains à vapeur et sur la façon de les conduire, connaissance que j'avais tant bien que mal mise en pratique avec des jeux vidéo. En sortant de son bureau, je réalisais que les premiers conducteurs de locomotives azéries de la ligne Tabriz-Jolfa étaient les seuls à avoir eu l'expérience professionnelle nécessaire pour former les générations ultérieures qui étaient amenées à prendre leur suite dans le nouveau système ferroviaire national. Encore aujourd'hui, la plupart des conducteurs de locomotives sont des Iraniens azéris, même hors de l'Azerbaïdjan iranien. Outre la transmission de leur expérience, les premiers conducteurs de la ligne Tabriz-Jolfa, qui avaient appris leur métier sur des trains russes avec des formateurs russes, introduisirent également dans la langue persane du vocabulaire qui continue à être partiellement utilisé de nos jours. Des mots comme tormoz, frein, sassat, démarreur et mazout sont tous d'origine russe. Alors quand j'ai lu ça, j'ai appris que mazout était d'origine russe. Et quand on recherche brièvement, on se rend compte qu'en fait la langue russe a elle-même emprunté ce mot à l'arabe marzoul qui signifie résidu. Et donc finalement dans un texte traduit du persan, on apprend qu'un mot vient du russe, sauf qu'en fait au départ il vient de l'arabe. Alors c'est assez amusant aussi que ce livre qui s'intitule Trainspotter ait gardé pour le titre du livre un mot anglais qui de fait n'a pas réellement d'équivalent en français. Donc vous voyez, on est bien dans I Love Mes Cheveux, on parle de plurilinguisme, on parle de traduction, on parle d'intraduisibilité. Alors si j'ai choisi cet extrait, ce n'est pas seulement car un de nos deux invités du jour travaille à la SNCF ou à la Senecefeu, je ne sais pas, mais aussi car je me rappelle clairement que pour moi le mot mazout a d'abord existé comme adjectif quand j'étais enfant, avec les plages mazoutées et les oiseaux mazoutés. C'était l'époque de la Mococalis, et donc voilà, ça marque aussitôt évidemment mon âge et ma génération, et j'en profite pour saluer nos deux stagiaires de seconde qui sont dans le studio avec nous, Sandro et Lison, et effectivement n'étaient pas nés à l'époque de la Mococalis. Cette idée insupportable d'oiseaux englués dans une marée noire est un de mes plus anciens souvenirs de sensibilisation à l'atrocité que représentait, et que représente plus que jamais, hélas, le fait de tout centrer autour des animaux humains au détriment de tous les animaux. Et donc voilà pourquoi aussi j'ai un peu tilté sur ce mot mazout, ce qui donne une transition approximative avec nos invités. Et la raison pour laquelle vous êtes là, alors Claire Tasté, Émilien Cousin-Amelal, vous représentez l'association Éduc-Pop Animaliste, et l'actualité, c'est la Vegan Place du samedi 28 juin à Tours. Alors, je vous propose de diffuser, et ensuite on aura une petite réaction, donc vous voyez, vraiment, mais je vais vous donner la parole, pas d'inquiétude. Je propose de diffuser un petit extrait d'une émission sœur, ABC des Vegues, que vous connaissez bien, parce que notre collègue Jérémy a très très bien résumé en 3 minutes ce qu'est le prix Maya pour lequel vous êtes présent aujourd'hui. C'était dans la dernière émission, celle du 26 mai. Donc on écoute ça tout de suite.
2025, hein, nous avions déjà eu l'occasion de diffuser des chroniques de Caroline Brasseau et nous allons consacrer cette émission à ces belles chroniques qu'elle a consacrées aux sélections du prix Maya 2025. Alors pour rappel, le prix Maya, c'est un prix littéraire animaliste qui est né à Tours et qui récompense chaque année depuis 2019 déjà les meilleurs ouvrages de fiction faisant avancer la cause animale dans 3 catégories, la catégorie récit, la catégorie livre jeunesse et enfin la catégorie bande dessinée. Alors les lauréats de l'édition 2025 ont déjà été révélés et c'était le 30 mars dernier à Paris, à la librairie Utopia, par les membres du jury qui comprenaient cette année. Alors dans le jury, il y a Émilie Dardenne qui est professeure des universités en anglais et études animales et qui est aussi responsable du DU, diplôme universitaire animaux et société RM2. Dans le jury, on trouve aussi Sophie Weiser, vétérinaire et vice-présidente de l'association Code Animal, une association nationale qui défend les intérêts, le respect et la liberté des animaux sauvages en captivité. On retrouve aussi Camille Silver, chargée de campagne pour L214, une association qu'on ne présente plus, Élodie Vieille-Blanchard, autrice et militante engagée pour les animaux et l'écologie, et enfin Pierre Lucot, responsable du pôle nature au mouvement Utopia. Le mouvement Utopia, c'est une association d'éducation populaire qui vise à élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial. Alors, les lauréats du prix Maya sont donc pour cette année 2025, dont je vais vous les donner. Dans la catégorie récit, c'est Première Plume, paru aux éditions Métellier de l'auteur anglais Charlie Gainbourg, qui a été récompensé. Le meilleur ouvrage jeunesse et Tino, un merle au jardin de Nicolas Joliveau, publié aux éditions Onfait. Enfin, dans la catégorie bande dessinée, le jury a récompensé S'il te plaît, dessine-moi un cachalot de Pomme Bernos et François Sarano, bande dessinée publiée chez Actes Sud. Alors, les récompenses du prix Maya 2025 seront remises au lauréat à Tours le 28 juin prochain lors de la Vegan Place de Tours en présence des membres du jury et de la marraine du prix Maya, l'artiste, illustratrice et militante Florence Delry, que nous avions déjà eu l'occasion de recevoir dans l'émission. Les récompenses seront remises plus particulièrement lors d'une conférence exceptionnelle qui réunira au Vinci Peter Singer et Paul Watson. Alors Peter Singer, lui, c'est un philosophe australien, titulaire de la chaire d'éthique à l'université de Princeton et auteur du classique La libération animale qui est paru en 1975 et qui a fortement influencé les mouvements modernes de défense des droits des animaux. Paul Watson, lui, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un militant écologiste, fondateur de Sea Shepherd, une ONG qui défend les écosystèmes et les animaux marins. Alors, vous l'aurez compris, il se passera beaucoup de choses intéressantes le 28 juin à Tours lors de la Vegan Place. Et nous y serons avec Radio Campus Tours, comme tous les ans, en proposant un plateau radio avec des tables rondes, dont une où nous recevrons les lauréats du prix Maya 2025. À vos agendas, donc.
Alors, pour l'heure. Et de retour en direct, cette fois-ci, pour I Love Mes Cheveux. Et on remercie vraiment énormément Jérémy d'ABC des Vegues pour cette synthèse faite il y a 3 semaines et annonçant vraiment avec beaucoup de détails et de clarté tous les lauréats, le prix. Et donc, autour de la table, face à moi, Claire Tasté et Émilien Cousin-Amelal, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation dans ABC des Vegues?
Oui, juste, c'était parfait hein, ce qu'a dit Jérémy, il a un art de la synthèse exceptionnel. Par contre, juste dire qu'on peut suivre la Vegan Place sur les réseaux et en particulier sur Instagram, hein, il y a un compte dédié Vegan Place Tour.
Sur Instagram, également sur la page Facebook. Sur Facebook, nous avons le compte Vegan Place Tour et également le compte Primaya.
Et voilà. Il me semble qu'il y a aussi un compte LinkedIn.
Tout à fait.
Du Primaya, peut-être. Peut-être
Primaya
pas de la
et Vegan Place.
Et Vegan Place aussi.
Ouais, voilà, c'est le même compte.
Donc, ok. D'accord, ok.
Et juste pour complément sur ce qu'a dit Jérémy, il a oublié quand même le traducteur de Première Plume. Donc, je ne sais pas si Guillaume, tu souhaitais en parler plus tard.
Alors, voilà. Oui, on va en parler, mais c'est Anatole Ponceremeau. D'autant que la traduction est très bonne, donc je peux le dire tout de suite si j'oublie de le dire plus tard. Mais c'est bien que ça soit toi qui le dise, Émilien, parce que ça m'enlève le poids d'être le mec qui râle quand on ne cite pas les traducteurs. Donc voilà, c'était un oubli tout à fait réparable et réparé. Donc on a bien entendu qu'il y allait avoir des événements extrêmement importants le 28 juin autour de la Vegan Place, et on va y revenir plus tard dans l'émission. On a bien compris qu'il y avait la remise du prix Maya dans trois catégories différentes, mais j'ai envie de vous demander, le prix Maya, ça vient d'où? Ça a commencé quand? Quelle est cette drôle d'idée? Comment ça se fait qu'il y ait des textes traduits? Voilà, je ne sais pas lequel de vous deux veut réagir, expliquer l'origine.
Il y a plusieurs questions en une, là.
Oui, alors on peut commencer par quand ça a commencé.
L'historien du prix, Émilien.
Oui, au niveau de la genèse, donc ça a été créé en 2019, la première édition du prix Maya. En fait, c'était l'équipe qui organisait la Vegan Place de Tours, qui a commencé en 2018. On a souhaité se monter en association, donc on a créé l'association Éduc Pop Animaliste pour gérer tout ce qui est logistique de la Vegan Place en 2018. Et en 2019, on cherchait des animations supplémentaires et on souhaitait également toucher un public plus large. Et donc, on s'est questionné parce qu'on était très conscient que tout ce qui est happening de rue, on leur limite. Et on cherchait vraiment un événement un peu plus impactant, un peu plus culturel. Et donc, on a souhaité lancer un prix littéraire. On n'était pas du tout spécialiste, mais on a appris un petit peu sur le tas. Et puis, on a ajouté d'autres compétences comme Claire qui est arrivée juste après, qui est prof de littérature. Donc, ça nous a bien aidé. Et donc, depuis 2019, tous les ans, le meilleur roman, la meilleure bande dessinée et le meilleur ouvrage jeunesse sont récompensés tous les ans à Tours.
Claire, tu veux...
Oui, alors pour rebondir peut-être sur la deuxième question du pourquoi des livres traduits. Alors c'est vrai que c'est quelque chose, lorsqu'on fait notre présélection, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé entre nous, à savoir est-ce qu'on réservait le prix à des ouvrages qui étaient écrits en français ou pas. Et bon, alors finalement, on a décidé d'ouvrir le prix à des ouvrages qui sont également traduits. Alors pour quelle raison? D'abord parce que on peut constater que la littérature, pour l'instant, n'investit pas pleinement le champ de l'écriture animaliste, même si c'est de plus en plus, effectivement, s'il y a, j'allais dire, un effet de mode. Non, qui n'est pas une mode, il y a un effet de fond, en fait. Voilà, il y a... mais rester hein, sur la littérature écrite en français, c'était un petit peu... on était un peu à l'étroit. Il y avait des livres qui nous étaient parfois proposés par des éditeurs qui étaient effectivement traduits et qui étaient très bons, qui aussi permettaient d'envisager les choses souvent sous un autre angle. Donc au final, on s'est dit bah, pourquoi pas avec évidemment les réserves que peut poser l'accès avec une traduction et voilà c'est le thème de ton émission donc tu le sais voilà je crois que
et en fait c'est vrai qu'on a bien fait d'ouvrir aux traductions oui. Parce que donc l'un des premiers livres traduits que nous avons mis dans la sélection c'était donc le roman Mama Red de l'américaine Brecke McLean oui. Et en fait elle était lauréate cette année-là justement pour
son ouvrage
Mama Red
c'était en 2021 on la salue d'ailleurs à Brecke McLean parce que
qui nous suit maintenant sur
les
réseaux sociaux
reste une belle rencontre
et c'est une belle rencontre parce qu'effectivement elle était tellement heureuse de remporter ce prix oui. Pour cet ouvrage qui est cher pour elle parce que c'est vraiment lié à son histoire familiale. Et donc, elle avait fait le déplacement des États-Unis pour venir nous voir à Tours.
Oui.
Absolument. Et donc, ça, c'était en 2021. Alors, j'aurais une autre question par rapport à ces questions de traduction. Mais il y a peut-être une petite chose qu'il faudrait expliquer. C'est que là, aujourd'hui, vous êtes deux autour de la table, mais vous êtes un comité d'une demi-douzaine, une petite dizaine de personnes.
Oui.
Vous faites la présélection, mais vous n'êtes pas jury.
Non. Alors, comme l'a bien expliqué Jérémy, hein, tout à l'heure, il a, dans l'extrait que tu as passé, Jérémy a évoqué les jurés qui composent notre jury, donc qui sont des personnalités hein, qui se sont illustrées, en fait, dans le monde de la défense des animaux. Alors, c'est des associatifs, c'est parfois des universitaires. Hein, il a parlé d'Émile Dardenne qui était là cette année. Donc ça, c'est le jury. Et puis, nous, on fait une présélection, hein, c'est-à-dire qu'on va proposer à ce jury 15 ouvrages, 5 récits, 5 albums jeunesse et 5 bandes dessinées. Voilà. Et donc, ils ne vont lire que cette liste limitative, finalement, que nous, on a constituée. Mais nous, il faut savoir qu'on en lit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein, dans l'année, on lit vraiment beaucoup d'ouvrages sur animalistes, finalement. Enfin, dont il faut décider s'ils rentrent ou pas dans notre sélection, justement, s'ils sont suffisamment animalistes ou pas.
Depuis 6 ans que le prix existe, est-ce que vous avez constaté qu'effectivement, il y avait plus d'ouvrages qui vous étaient proposés ou est-ce que c'est le prix qui est plus connu? Enfin, je ne sais pas.
Oui, dans les débuts du prix, on a toujours en fait limité à 5 ouvrages par sélection. Et en fait, dans les débuts du prix, on a eu des cas où il n'y avait que 3 ouvrages dans la sélection. Par exemple, en catégorie roman, on n'avait que 3 qui étaient vraiment assez bons. Et donc, le choix était assez rapide pour nous, la sélection. Et maintenant, tous les ans, on voit qu'on a énormément d'ouvrages, comme disait Claire. Et maintenant, on a une vraie sélection à faire. Nous, on fait toujours nos recherches de notre côté, mais on a également les éditeurs qui nous contactent et qui nous envoient en avant-première leurs ouvrages. Et maintenant, on a vraiment un vrai travail de sélection à faire ces 2-3 dernières années.
Oui, et à mes yeux, il y a vraiment une catégorie dans laquelle la production est quand même très, très intense ces dernières années concernant cette littérature animaliste, c'est la bande dessinée. Hein. La bande dessinée a investi vraiment complètement ce champ comme un moyen de vulgariser en fait, des idées. Et on reçoit beaucoup de choses, et beaucoup de choses de qualité hein, en bande dessinée.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tous les ans à Angoulême, en janvier, avec Claire, souvent, nous faisons notre petit tour pour aller dénicher nos pépites.
Tout à fait.
Oui, parce que je crois que de toute façon, il y a 7000 bandes dessinées qui paraissent en France chaque année. Donc, ça paraît relativement normal, en un sens qu'il y ait aussi, au sein de ces 7000, un nombre grandissant, certainement, de textes animalistes. Oui. C'est quoi un texte animaliste?
Ça, c'est la grande question. On n'est pas sûr d'être tous d'accord sur la définition.
Au sein de l'association, vous vous dites celui-là, ouais. il rentre en plein et puis il y en a qui ne sont pas d'accord.
Voilà,
c'est ça,
il y en a
qui...
Voilà, il faut... L'animalisme, c'est pas l'environnementalisme. C'est une chose différente. Donc, pour nous, en fait, la littérature animaliste, c'est vraiment... c'est une littérature, évidemment, qui va défendre la cause animale, bien sûr, mais pas uniquement. C'est aussi... une littérature qui va faire entendre le point de vue de l'animal, qui va se décentrer de l'animal humain, finalement. Et donc, qui va faire entendre, alors j'ai envie de dire la voix, non, parce que c'est compliqué, mais qui va faire... il y a ce perspectivisme, et ce perspectivisme qui est une difficulté hein, en littérature et qui ouvre un champ des possibles, un champ de création, mais qui n'est pas facile parfois d'investir. Hein. C'est quelque chose de... Alors, il y a un test qui a été mis au point par une dessinatrice et qui est aussi une dessinatrice très engagée, une activiste, qui s'appelle Fanny Vaucher et qui s'appelle le test Simba. Il a été fait sur le principe du test de Bechdel, pour ceux qui connaissent. Et le test Simba, ça va être appliqué au spécisme. Donc, dans ce test, je peux vous le lire rapidement, il faut se demander si les animaux sont stéréotypés ou pas. Est-ce qu'ils sont individualisés ou pas? S'ils ne sont pas individualisés, on n'est pas dans l'animalisme. Est-ce qu'il y a des expressions spécistes dans l'ouvrage ou pas? Est-ce qu'on banalise dans l'ouvrage la domination humaine ou pas?
Je suppose qu'on la banalise, enfin en tout cas, est-ce qu'elle est problématisée? C'est-à-dire est-ce qu'on parle de la domination humaine ou pas? Parce qu'une manière de la banaliser, c'est de la visibiliser, c'est de faire comme si c'était normal.
Oui, exactement. Donc en fait, il y a ce test, Simba, c'est un début, mais il peut aider à se positionner hein, par rapport à un ouvrage, même s'il a été plutôt fait... pour les œuvres cinématographiques ou graphiques, hein, parce qu'il y a une autre catégorie qui ne fonctionne pas bien pour les livres. Mais voilà, ça permet de se positionner, hein, par rapport aux animaux. Et, par rapport...
et donc ce test Simba est proposé donc, tous les ans aux jurés, plus une grille de lecture pour les aider. Après, effectivement, nous avons tous un petit peu voilà, notre nos critères de sélection. Oui. Et après, je sais que moi, personnellement, quand je lis un ouvrage, pour savoir si dans la sélection, je me fais la question toute simple, c'est est-ce que cet ouvrage peut faire avancer la cause animale ? Voilà. Oui, si à la fin de la lecture, si pour moi, ça peut faire avancer la cause animale et si c'est bien écrit, pour moi, il peut faire partie de la sélection.
Mais tu as aussitôt rajouté, si c'est bien écrit, quand même.
Oui, oui, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est aussi problématique parce qu'en fait, on reçoit énormément d'ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont très bien écrits, mais pas du tout assez engagés, donc on ne peut pas sélectionner. Et d'autres qui sont très engagés, mais où l'écriture ne suit pas. Et donc voilà, c'est un travail un peu d'équilibriste qu'on doit faire au niveau de la sélection.
Oui, tout à fait. On a des ouvrages qui sont très engagés, mais dans lesquels il n'y a pas de littérature. C'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent des mots pour vulgariser des idées. Voilà, parfois sous la forme d'un petit récit, mais pour autant, ça n'en fait pas une œuvre littéraire. Mmh. Et nous, on voulait quand même être à l'intersection de la littérature et de l'animalisme.
Et je vous propose tout de suite d'appliquer le test de Simba, non pas à une œuvre graphique, non pas à un texte, mais à une chanson proposée. Alors, toute la playlist d'aujourd'hui est proposée par nos invités, qui a été proposée par une de nos deux invités. Claire, tu as notamment proposé d'écouter une chanson qu'on aime beaucoup ici, qui est Bébé éléphant de Dick Annegarn. Et on va voir comment ça passe le test Simba.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherchent-ils pas? Je trouve ça un grand pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? J'ai bien peur qu'ils se soient suivis dans le précipice, au fond des profundis. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je me sens tout errata. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Parce que je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous se sont encourus. Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mâle blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Quelle tribu voudrait m'adopter? Je suis un égaré, sans carte d'identité. Ok, je me plierai à vos coutumes. Ok, si vous acceptez mon volume. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher?
Et on a swingé dans le studio de Radio Campus 99.5 avec nos invités. I Love Mes Cheveux autour du Prix Maya. Et on était d'accord pour dire que la chanson de Dick Annegarn, qui est de 1975, elle passe plutôt pas trop mal le test de Simba, on va dire.
Oui, finalement, je ne suis pas sûre que dans l'esprit de Dick Annegarn, c'était une chanson animaliste. Hein. Je pense qu'il y a c'est allégorique, je pense que c'est une fable, mais finalement...
Il y a du perspectivisme, je n'ai pas réussi à le dire, j'ai voulu faire le malin. Alors juste puisqu'on a parlé de ce concept, c'est un concept qui n'a pas été inventé mais qui a été beaucoup théorisé et travaillé par la présidente du jury de 2025, Émilie Dardenne, me semble-t-il.
Absolument.
Qui a beaucoup travaillé sur cette question-là.
Tout à fait.
Et donc, Émilie Dardenne qui sera là le 28 juin à la Vegan Place, ainsi que le reste du jury et des lauréats.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut parler ben, justement des lauréats? On a entendu tout à l'heure avec, avec notre collègue Jérémy d'ABC d'Évêque la sélection. Et puis, vous pouvez aller écouter l'ensemble de l'émission ABC d'Évêque du 26 mai. Je remettrai le lien, bien sûr, mais voilà, c'est sur le site de Radio Campus, évidemment, puisqu'il y a aussi des chroniques relatives aux différents textes de la sélection. Alors, est-ce que vous, voilà, l'un ou l'autre, vous voulez nous parler des trois ouvrages lauréats de cette année?
Oui, alors donc, nous avons énormément de chance cette année, parce que c'est la première année où les trois lauréats seront présents à Tours pour la remise du prix. Généralement, c'est assez compliqué d'avoir les trois lauréats, parce que parfois, ils viennent de loin. Cette année, nous avons donc les trois lauréats qui sont donc Charlie Gilmore avec Première Plume, qui est donc un auteur britannique et qui donc va faire le déplacement spécialement pour nous. Donc, on est vraiment honorés de sa présence. On a également en meilleur ouvrage jeunesse Tino un merle au jardin de Nicolas Joliveau, qui était aux éditions Onfeuille. Et Nicolas Joliveau habite en Touraine, donc il nous fera le plaisir d'être présent avec nous. Et on a en bande dessinée « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » de Pomme Bernos et de François Sarano aux éditions Actes Sud. François Sarano, c'est un scientifique qui est très connu pour ses travaux autour du cachalot et des cétacés. C'est également l'ancien conseiller scientifique du Calypso, du commandant Cousteau. Donc ceux qui suivaient les aventures du commandant Cousteau connaissent François Sarano.
On continue, on continue à parler des références qui échappent en partie, je pense, à nos stagiaires de seconde.
C'est un grand océanographe.
Voilà.
Tout à fait. Et donc, François Sarano sera également présent. Il n'y aura pas la dessinatrice, mais l'auteur Sarano sera présent avec nous également.
Alors, justement, par rapport à cette présence des lauréats, il me semble que pour la première année, vous avez annoncé les lauréats en amont, c'est-à-dire il y a 3 mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça.
Oui.
C'est aussi ça qui doit expliquer ou faciliter le fait d'avoir les lauréats pour la remise officielle lors de la Vegan Place.
Oui, ben malgré tout, on a un prix un peu balbutiant encore. Hein. Voilà, on n'est pas des professionnels. Là, on a trouvé effectivement, on a anticipé les lauréats en fait. Pour pouvoir les inviter tous de manière nominale à la Vegan Place et ça a fonctionné. Donc, alors on ne sait pas si c'est ça qui a fonctionné ou si on a de la chance, si ça tombe bien cette année. On verra l'année prochaine. Mais oui, effectivement, le prix a été annoncé fin mars.
Fin mars, oui, tout à fait.
Ok. Et donc, est-ce que dans la shortlist, il y a des textes, éventuellement des textes traduits, parce que bon, c'est un peu le sujet de l'émission, mais si on fait un peu de hors-sujet, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des textes qui étaient dans la shortlist et qui auraient été aussi une sorte de coup de cœur ou d'accessite que vous auriez, voilà, dont vous auriez voulu dire ne serait-ce qu'un mot, je sais pas si...
Est-ce qu'il y avait d'autres textes traduits dans la shortlist? C'est ça la question.
Alors, par exemple, ou des textes pas traduits, mais voilà.
Il y en avait plusieurs cette année. Par exemple, au roman-récit, dans la section, on avait Parle-moi, de T.C. Boyle, qui était traduit de l'anglais par Bernard Turn.
Qui était très bien.
Exactement.
T.C. Boyle, qui est un grand écrivain, très connu.
C'est un écrivain populaire, effectivement. Ouais. Donc, c'était important pour nous de le mettre dans la sélection, comme il s'intéressait à ce sujet. Qui était sur l'expérimentation animale.
Oui.
Ensuite, au niveau de la BD, on avait 2 traductions. C'était le manga « Changer le monde » de Natsumi, qui était traduit du japonais par Julie Stéphan aux éditions Evalu. Et « Tepe la colline » de Firat Yaza, traduit du turc par Zeynep Diker aux éditions Ça et là.
Et je peux me permettre de dire que c'est un livre magnifique, d'ailleurs, parce que je l'ai lu. Et c'était aussi, et ça permet d'anticiper ou de supprimer une question que j'avais, parce qu'on a bien entendu que dans les lauréats des dernières années, vous avez mentionné Brand McLean, américaine traduite de l'anglais, Charlie Gilmer cette année traduit de l'anglais, et effectivement, il y aurait un risque peut-être de fixation autour de l'anglais. On sait que le monde éditorial français traduit beaucoup, beaucoup de l'anglais et pas assez des autres langues. Donc là, c'est aussi pour signaler dans la shortlist des ouvrages traduits du japonais et du turc. Donc c'est, ouais, tout à fait. C'est aussi à signaler.
Oui, alors dans les shortlists précédentes, alors qui n'ont pas été lauréats, mais il y avait aussi, par exemple, en 2024, on avait des Chevaux et du vin de Akiko Kawasaki aux éditions Piquier, qui était traduit aussi du japonais par Patrick Honoré. Et en 2023, on avait Bonobo de Jeong Yu Jeong, traduit du coréen, toujours chez Piquier. Traduit du coréen par Yong Yi et Mathilde Colo. Donc voilà, on a tout.
Donc les ouvrages venus d'Asie notamment n'ont pas encore accédé au titre, ne sont pas devenus lauréats, mais il y a des shortlists et ces shortlists, oui, elles, oui, existent, elles sont trouvables sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Primaya. Tout à fait, oui, sur les réseaux sociaux et également sur le site primaya.org où on conserve toutes nos sélections précédentes.
C'est peut-être effectivement la manière, oui, la plus simple de retrouver les infos, parce que sur les réseaux sociaux, parfois, on scrolle et on ne trouve pas toujours.
Et au niveau de la traductologie, c'est vrai que depuis l'an dernier, on a fait un peu notre mea culpa, parce que c'est vrai que dans notre communication, on n'indiquait pas forcément le nom des traducteurs. Et donc, sur remarque judicieuse de Claire, c'est vrai que depuis l'an dernier, que ce soit sur le site internet, les réseaux sociaux et également les communiqués de presse, on indique bien le nom des traducteurs.
Okay. D'autant qu'on peut supposer que si le texte est lauréat, c'est que la traduction n'a pas fait obstacle et donc elle est normalement de bonne qualité.
Oui, tout à fait.
Satisfaisante.
Oui,
au minimum,
tout à fait. Voilà, tout à fait.
Enfin, c'est vrai que pour cette année, ceux que moi j'ai lus ont l'air très bien traduits.
Je voulais rebondir très rapidement sur ce qu'on a dit des ouvrages traduits d'une langue asiatique. C'est vrai qu'on a eu plusieurs fois dans les shortlists et c'est des ouvrages qui n'ont jamais été lauréats et je pense que ça doit nous interroger. Parce que en réalité, la vision de l'animal et de l'animalisme qui est véhiculée par ces ouvrages n'est pas la nôtre. La relation que les Asiatiques peuvent avoir aux animaux, y compris quand ils sont dans une démarche animaliste, n'est quand même pas tout à fait la nôtre. Et je pense que ça fait peut-être obstacle à la réception de leurs textes.
Et je pense que...
Je ne suis pas spécialiste de cette littérature.
Oui, Emilien.
Et ça, c'est vrai que c'est une bonne question qu'on pourra, ouais, poser aux responsables de la maison d'édition Hongfei. Parce que Hongfei, cette,
oui,
année, a un ouvrage lauréat qui est Tino, un merle au jardin, de Nicolas Joliveau. Mais Hongfei a été régulièrement dans notre sélection parce qu'ils font beaucoup de traductions en fait, de livres chinois.
Oui.
Et donc, le responsable de la maison d'édition sera avec nous sur la Vegan Pace et avec son auteur Léral la semaine prochaine. Et je pense qu'on pourra lui poser la question. C'est une très bonne question,
oui,
ça.
C'est vrai.
Je pense que c'est des questions à poser au jury ou des biais historiques. Parce que vous êtes aussi
on a
sur
des biais.
Parce que vous êtes sur un bilan. Là, quand vous dites ça, c'est en 2025. Oui. Ça fait 6 ans que le prix existe, si je ne m'abuse. C'est aussi des choses qui peuvent être glissées éventuellement dans l'oreille des jurys des prochaines années. Leur dire, on a constaté qu'on avait beaucoup de textes traduits du chinois, du coréen, du japonais, du turc, si j'inclus la Turquie dans l'Asie. Mais quand on lit TP la colline, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un point de vue qui est en partie, qui demande à entrer quand même dans un point de vue assez différent sur la question. Je parle de ce que j'ai lu, puisque celui-là, je l'ai lu. Mais c'est peut-être aussi à signaler, dire que peut-être qu'il y a peut-être eu un biais historique et peut-être qu'il faut en être conscient au moment de faire des discussions du jury. Voilà, je sais pas.
Oui, tout à fait, mais bon, là, voilà. On réfléchit tout en faisant cette émission, là. Donc...
non, mais la discussion continue. Et on va refaire une deuxième pause musicale avec un autre choix de nos invités, cette fois-ci le choix d'Emilien. Et on va embarquer pour l'Arche de Noé avec Coco Rosie.
Thank you.
de retour sur le studio, dans le studio, sur le studio, non, on va pas encore, on monte pas encore sur les tables, même si ça danse. Retour dans le studio de Radio Campus pour I Love Mes Cheveux, on écoutait Noah's Ark de Coco Rosie, le choix d'Emilien Cousin Amelal avec nous dans le studio, ainsi qu'avec Claire Tasté de l'association Educpop Animaliste, et on parle du prix Maya. Alors il y a un texte qui est lauréat cette année dont on n'a pas encore réellement parlé, c'est le texte lauréat dans la catégorie récit, et c'est Première plume de Charlie Gelma, traduit de l'anglais par Anatole Ponce-Remeau. C'est aux éditions Métellier, en plus ça vient juste d'être réédité dans une collection de poche Métellier Suite à 11 €. Donc il n'y a aucune raison de se priver de ce livre qui est un très beau livre. Est-ce que l'un de vous veut rapidement raconter de quoi parle ce livre, Émilien ?
Oui, en fait, c'est le récit sensible de la rencontre entre le jeune Charlie et l'Happy Benzen. C'est une rencontre transformatrice et réparatrice pour l'auteur. Et donc, il l'évoque avec beaucoup de talent.
Oui, tout à fait. Il trouve une pie. L'auteur, c'est une autobiographie, hein, c'est un récit à caractère autobiographique. Et donc, l'auteur trouve une pie qui est tombée du nid et il décide de l'élever. Alors, c'est un petit peu, ça peut paraître étrange hein, comme histoire, mais il décide d'élever cette pie.
Et donc, à contre-cœur au départ.
À contre-cœur au départ.
Hein, elle a été trouvée par la sœur de sa compagne.
Ouais, c'est ça. Si on revient, et donc, il va vivre plusieurs mois avec cette pie. Alors, il y a des passages très drôles hein, parce que elle, chez lui, elle met un bazar fou, en fait. Hein, voilà. Et il se trouve que cette pie, d'une manière assez étrange, va le reconnecter à lui, à son père, puisque Charlie Gilmore, il a été élevé par son beau-père, le deuxième mari de sa mère, et va le reconnecter à son père qui est aussi un écrivain, alors pas célèbre en France, mais assez célèbre en Angleterre, et ce père qui a été un père défaillant toute sa vie, etc. Et donc, il va renouer avec ce père au moment où ce père est mourant quand même, hein. Voilà, et cette pie, elle va faire le lien, et d'ailleurs le titre du roman en anglais le dit bien, elle fait le lien avec la paternité, c'est-à-dire la relation que lui, il a à son père, et la relation qu'il va construire avec son bébé à naître.
Alors le titre anglais, c'est « Featherhood », ce qui est un jeu de mots, un néologisme formé sur « feather », qui veut dire « plume », et sur « fatherhood », la paternité.
Voilà.
C'est la plus maternité, enfin je sais pas, enfin il y a pas de, enfin il y a pas de traduction.
Ouais, et donc cette pie en fait, elle fait le lien entre tout ça, et elle lui apprend aussi des choses. Elle lui apprend à vivre avec tout ça, avec cette relation compliquée qui est celle qui est celle avec son père et qui est plus apaisée avec son beau-père. Alors, je sais pas si Charlie Gilmore, il a un nom très connu en Angleterre, je sais pas s'il aime trop dire qu'on dise qui est son beau-père.
Bon, en même temps, il le dit quand même assez.
Mais il le dit dans le livre, alors on va le dire, hein, parce que Charlie Gilmore.
C'est le fils de David Gilmore, qui est un des Pink Floyd.
Voilà. Donc, d'ailleurs, on retrouve encore les oiseaux.
Pas vraiment, ouais, non. Ça, c'est un temps où il y avait la légende urbaine comme quoi Pink Floyd, c'était une déformation de Pink Flamingo, Flamand Rose, mais pas du tout, en fait.
Et donc, voilà, en fait, et c'est un très beau roman parce que. Cette pie, elle apprend à être, en fait.
Bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi les... Il parle des mauvais côtés aussi, pas que des bons côtés.
Ah oui,
de
tout à fait.
Avec cette pie.
Ouais,
ça,
ouais.
Ça, c'est intéressant.
Exactement. Il n'y a pas d'angélisme de la narration. Non, la pie, c'est un oiseau. Hein. C'est... Et un oiseau, quand on la met dans une maison, c'est un oiseau.
Il ne faut pas être maniaque du ménage.
Voilà. Une pie, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un animal humain. C'est un animal non humain. Elle a son mode de vie à elle.
Alors, il y a des interactions qui se créent quand même. C'est un roman d'apprentissage aussi. C'est un récit autobiographique de formation d'apprentissage dans lequel, effectivement, le narrateur apprend à régler un certain nombre de ses traumas liés à la paternité, puisque sentiment qui n'est pas qu'un sentiment d'abandon par le père biologique, adoption, puisqu'il porte quand même le nom de son père adoptif qu'il a reconnu, donc le musicien David Gilmore. Donc il y a tout cet aspect-là, mais ça veut dire aussi qu'il y a une relation qui se crée, une relation qui se crée sans angélisme, effectivement. Donc c'est effectivement très bien traduit, Première plume, Featherhood. Je propose d'en lire un extrait qui, j'espère, illustrera la question de la perspective et du perspectivisme. C'est au bas de la page 111 dans la donc nouvelle édition de poche chez Métellier. Et il s'agit d'un moment où l'oiseau, devenu jeune adulte, commence à s'affranchir un peu et à découvrir différemment son environnement. Il se pourrait simplement qu'il soit dépassé par les événements, que le choc de la nouveauté le pousse à se raccrocher à ce qui lui est familier. Tout est nouveau pour lui. L'herbe est une surprise. Il se pose sur la pelouse moins d'une seconde avant de décoller, alarmé par cette sensation inattendue. C'est bizarre et humide, et ça semble vouloir l'avaler tout entier. Dans un massif de roses, il découvre son premier lombric. Le ver de terre est légèrement mordillé puis recraché avec dégoût. Les fleurs, par contraste, sont une source continue d'émerveillement et de ravissement. Benzène court depuis mon épaule sur toute la longueur de mon bras pour atteindre une rose qu'il déchire en morceaux. D'une manière ou d'une autre, sans qu'on le lui dise, il semble savoir qu'il a fait une bêtise et il bondit vers le ciel, le bec plein de pétales. Si je ferme les yeux, je peux presque sentir le vent s'engouffrer dans ses plumes. Son extase en apesanteur est l'espace d'un instant la mienne. Je sens plus que jamais le mouvement de deux forces opposées. Je veux qu'il parte, je veux qu'il reste. Donc c'est extrait de Première plume de Charlie Gelma, traduction d'Anatole Ponceremaud. Et donc bon, dans ce passage dans lequel l'api découvre en fait la nature et un petit peu d'autonomie et finalement quelque chose qui est plus proche de, on va dire, son authenticité animale. Je ne sais pas très bien comment le dire, c'est difficile de ne pas simplifier. En fait, le récit essaie d'imaginer, sans pour autant faire parler directement l'api, ce que ça peut être d'être dans cette position de découverte de l'inattendu. Est-ce qu'il y a pas une réaction, un commentaire à cet extrait ou à d'autres choses qu'on n'a pas dites sur le livre ?
Non, c'est un bel extrait justement. Je veux qu'il parte, je veux qu'il reste. Je trouve que c'est, ouais, voilà, ça, c'est tout à fait parlant. Non, bah, il faut le lire ce livre en fait. Vous le trouverez à la Vegan Place.
Avec une jolie dédicace de l'auteur, donc faut en profiter.
Ouais. Tout à fait. L'auteur sera là, pourra vous le dédicacer. Exactement. Participera à un plateau Radio Campus avec Jérémy.
Oui.
On peut aussi citer d'ailleurs la librairie partenaire.
Oui, qui s'appelle Des Yeux d'Or, qui est une libraire indépendante à Mont-Louis.
Voilà, tout à fait, qui sera sur place et qui aura donc des exemplaires du livre. Alors, juste, moi, je fais un petit salut parce qu'il se trouve que dans le roman, je ne sais plus si vous l'avez dit ou pas, le lien avec le père biologique, c'est aussi lié au fait que le père biologique, Heathcote Williams, qui est un poète qui a écrit notamment des livres sur les baleines, sur les dauphins, enfin des poèmes en fait, hein, de longs poèmes, en partie encyclopédiques, très étrange, pas traduit en français, sur les baleines, sur les dauphins, s'appelait Heathcote Williams, et quelqu'un qui a eu un chouka, a vécu avec un chouka pendant un certain nombre de temps, et je voulais juste en profiter pour faire un petit coucou à quelqu'un qui a été invité ici, un collègue à moi, et un ami aussi, qui a été invité dans la Méridienne sur Radio Campus, c'est mon collègue Florent Collère qui a publié cette année un livre qui s'appelle « Des sociétés animales, un regard sociologique », dans lequel il raconte notamment une expérience d'immersion avec un troupeau de blondes d'Aquitaine, dans lequel il parle aussi d'un exemple de vie, puisqu'il a vécu là, lui-même avec un chouka pendant quelques années. Donc voilà, donc on va dire que finalement, ça paraît très étrange, mais en fait, il y a d'autres personnes qui vivent ce type d'expérience. Je propose de faire une autre petite pause musicale en écoutant ben justement un morceau des Pink Floyd, Grantchester Meadows, qui date de je sais plus quand, mais c'est pas 1969, et qui a été composé par Roger Waters, mais qui parle de Grantchester, où est né et où vivait et où vit encore, je crois, David Gelma. Et donc ça fait un petit écho aussi au passage les plus bucoliques du roman de Charlie Gelma.
Sounds like the death he's silence lay on the ground. Hear the lark and hearken to the barking of the dark fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. The river green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow down, all around me golden sunflakes covering the ground, basking in the sunshine of a bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into my city room. Hear the lark and hearken to the bark of the kingfisher flashing to the water. The river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea.
Campus n'est pas loin des Grantchester Meadows, il faut croire, on a entendu les oiseaux. Et on est donc dans le studio pour parler de la Vegan Place du 28 juin et du prix Maya 2025. On discutait juste avant de Première Plume de Charlie Gelma, roman ou récit lauréat de cette année. Et Charlie Gelma sera présent le 28 juin pour signer ses livres et discuter avec les lecteurs, lectrices et avec le jury. Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, j'avais choisi cet extrait pour essayer de montrer que, en fait, si on en revient au fameux test de Simba dont vous avez parlé tout à l'heure, Émilien Cousin Amelal et Claire Tasté, si on revient à ce test de Simba, il y a une véritable volonté de ne pas être spéciste, d'utiliser le moins possible un langage spéciste, voire évidemment d'essayer de se mettre autant que possible à la place d'un point de vue non humain. Et donc, je voulais aussi savoir. Alors, dans la traduction, c'est très bien fait d'ailleurs. C'est-à-dire que la plupart des moments dans lesquels Charlie Gilmer, en anglais, essaie de déspéciser la langue, le traducteur Anatole Ponceremeau s'est efforcé de le restituer. Donc, je ne sais pas si vous aviez une autre remarque par rapport à ça, sur ce texte-là ou sur d'autres.
Ah oui, justement. Alors, déspéciser la langue, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de la littérature animaliste. Et c'est ce que fait très bien Charlie Gilmore dans son livre, même si je l'ai, encore une fois, moi, lu en traduction. Mais toi, Guillaume, tu l'as lu en anglais. Et c'est-à-dire qu'il va retravailler la langue. Il va retravailler la langue au corps, justement, pour, souvent par des jeux de mots ou par des... pour la déspéciser, en quelque sorte. Et on a beaucoup entendu ces derniers temps décoloniser la langue, par exemple. Il faut aussi la déspéciser. Alors, par exemple, il y a une chercheuse qui s'appelle Marie-Claude Marsollier, qui est une chercheuse en génétique, qui est attachée au Musée de l'Homme, je crois. Et cette chercheuse, elle a écrit un petit livre que tout le monde peut lire parce que c'est très 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 accessible, même si c'est quelque chose qui est fait par une chercheuse et qui porte sur la langue française. Et ça s'appelle « Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale ». Et elle montre dans ce petit livre comment notre langue et porte en fait non pas l'antispécisme mais le spécisme, c'est-à-dire que notre langage de tous les jours nous invite à voir l'animal comme un autre radicalement différent qui n'a rien à voir avec nous. Alors c'est un livre par exemple dans lequel elle parle, je peux vous donner un exemple, elle parle de ce qu'elle appelle le lexique d'opposition. Alors le lexique d'opposition, ça va être un vocabulaire qui va être utilisé pour les animaux, qui va être spécifique aux animaux. Et pourtant, c'est un vocabulaire qui rend compte de choses que les animaux non humains et les animaux humains ont en commun. Et pour autant, on va utiliser des mots différents. Par exemple, on ne dira jamais qu'une vache ou qu'une chèvre est enceinte. On dira qu'elles sont gravides. On ne dira pas que...
Aussi.
Ou grosse, voilà.
Disait, ce qu'on disait les femmes, d'ailleurs.
Exactement. On dira rarement, on dira d'une femme qu'elle accouche, mais d'une vache qu'elle a mis bas. On parlera d'un nourrisson pour un bébé humain, mais on parlera de petit pour un animal, ou bien on aura un vocabulaire spécifique, le veau pour la vache, etc. Donc tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est du lexique d'opposition. C'est-à-dire que pourtant, ce que fait la vache et ce que fait la femme au moment où elles accouchent, c'est exactement la même chose. Vraiment, nous sommes des mammifères, on fonctionne de la même manière. Notre anatomie fonctionne pareil. C'est la même chose et on va utiliser des mots qui vont différencier un même état, un même vécu, une même situation. Donc il faut, notre langue de tous les jours nous oppose aux animaux, même sur des choses que nous avons en commun. Et il y a une autre chercheuse qui s'appelle, écrivaine, Kautar Archi, qui a écrit dans son dernier livre, dans le titre...
Ainsi l'animal et nous,
qui va même plus loin et qui dit que ça a tellement forgé cette langue, elle a tellement forgé notre réflexion, notre manière de réfléchir, qu'elle fait obstacle à la lutte. Animaliste. C'est-à-dire que cette lutte animaliste qui devrait converger avec tous les mouvements égalitaires, quels qu'ils soient, elle ne réussit pas à converger parce qu'on s'est construit en opposition aux animaux. Et on voit parfois dans des manifestations pour des revendications égalitaires, ce panneau, on n'est pas des animaux. On ne doit pas nous traiter comme des bêtes. Et voilà, et vous voyez que ça a tellement infusé ce spécisme dans la langue, a tellement infusé notre réflexion qu'on ne voit plus l'antispécisme comme une énième lutte finalement pour un combat égalitaire.
Alors, si je peux me permettre, donc je rappelle rapidement, Le mépris des bêtes de Marie-Claude Marsollier, c'est au PUF en 2020.
Oui.
Et elle a publié cette année un texte que moi j'ai pas lu, qui s'appelle Le fétichisme de la viande, également au PUF.
Ouais, que j'ai pas lu non plus.
Qui rejoindrait d'autres publications, notamment aux éditions Nourriture Fu. Sur la question intersectionnelle, je me permets aussi de conseiller, de rajouter mon grain de sel, c'est le cas de le dire, et de parler de voracisme aussi, de Nicolas Kaiser-Brill, Voracisme, 3 siècles de suprématie blanche dans l'assiette, qui date de 2021, qui est aussi une lecture tout à fait abordable. Je veux dire, vraiment, on parle de textes qui sont vraiment lisibles par des gens qui ne sont pas universitaires. C'est vraiment abordable.
Et je t'ai juste à compléter ce qu'a dit Claire, parce que c'est vrai qu'on a évoqué plusieurs fois le mot spécisme, mais sans donner la définition. Et je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, j'ai pris la définition du Larousse, je l'ai devant les yeux. C'est une vision du monde postulant une hiérarchie entre les espèces animales et en particulier la supériorité de l'être humain sur les animaux. Et je pense que c'est important de connaître cette définition-là parce qu'on en parle depuis
tout à l'heure. Parce qu'on parle de texte antispéciste, il faut déjà savoir ce qu'est le spécisme pour essayer de comprendre ce que pourrait être une démarche antispéciste, absolument.
Et sachant que c'est un terme donc, qui n'a pas été inventé mais qui était popularisé par le philosophe Peter Singer. Et justement, ça peut faire le lien parce que Peter Singer sera notre grand invité lors de la Vegan Place à Tours.
Avec Paul Watson, absolument. On va en parler après une dernière pause musicale, mais attention, elle sera très brève, qui est là encore et un choix de Claire Tasté pour la playlist et qui est de manière un peu ludique d'illustrer cette question de la misothérie, comme je crois l'explique Marie-Claude Marsollier, c'est-à-dire le mépris des animaux non humains. Et de montrer comment dans la langue il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui sont un peu étranges. Et je vous laisse écouter, attention, c'est une chanson qui dure 50 secondes.
Mais ça sert à quoi de connaître leur métier si c'est juste pour les manger?
Écoutions Gérald Gentil,
oui.
Un poulet fermier ou poulet fermier tiré de l'album Hippopotame, c'était en 2016. Et voilà, une petite dédicace à deux jeunes adultes qui détestent particulièrement cette chanson et on l'a diffusée quand même.
Exactement. Alors j'ai choisi cette courte chanson parce que la première fois que je l'ai entendue, j'ai juste vu l'humour, la boutade, le jeu un peu potache sur la langue. Et je me disais que du coup, ça pouvait être une bonne chanson pour cette émission qui s'intéresse particulièrement à la langue. Mais en la réécoutant, au-delà de l'humour, elle souligne en fait la dissonance cognitive que nous avons vis-à-vis des animaux. Et la petite question de l'enfant... qui est l'enfant en fait du chanteur lui-même qui l'a enregistré. Ah ben débrouille-toi avec ça quand t'es adulte. Hein. Effectivement, débrouille-toi avec ça.
En quoi un lapin est-il chasseur quand on le mange ?
Et ça sert à quoi de connaître leur métier alors qui n'est pas leur métier, donc il va falloir expliquer que ben non, c'est des recettes de cuisine en fait. Et si c'est pour les manger, ben oui. Et pourquoi on les mange en fait les animaux ?
On remarque d'ailleurs que sur les 5 exemples, il y en a un seul qui est un végétal.
Oui,
les haricots verts, entre d'autres, les 4 autres sont quand même des
animaux. Et donc voilà, et c'est vrai, on est en pleine dissonance cognitive parce que quand on regarde de fait, souvent, les albums pour les enfants, on a souvent des petits lapins, des tout mignons, même des petits cochons et tout ça, qui sont complètement humanisés, qui ont une famille, qui travaillent. Oui, mais en fait, dans la réalité, ils ont une famille, hein, mais... Voilà.
Ils finissent mal.
Mais ils finissent mal.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis, Claire, c'est qu'on reçoit énormément tous les ans d'éditeurs des ouvrages jeunesse, justement, où les animaux sont surreprésentés. Mais finalement, ne sont pas du tout...
Non. Souvent, l'animal...
Ils sont anthropomorphisés.
Ouais voilà. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Et là, la chanson, finalement, enfin, la question de l'enfant, elle pose tout ce problème de la dissonance cognitive de notre relation aux animaux depuis des siècles.
Depuis des siècles, en effet. Donc, on a bien noté un certain nombre de références et j'essaierai de ne pas en oublier dans la page web de l'émission pour le podcast, afin que tous les auditeurs auditrices puissent emporter des lectures pour l'été sur ces différentes questions. Alors on en vient à la Vegan Place. Après tout, la Vegan Place s'appelle Vegan. Ça n'est pas un hasard. C'est à cause bien de ce dont on était en train de parler. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la question d'un prix littéraire animaliste et qu'on réfléchit à récompenser des textes antispécistes, il y a certainement, je suppose, on ne va pas vous demander vos préférences alimentaires, mais on suppose qu'il y a une continuité avec les pratiques personnelles. Et donc, le prix Maya sera donc remis à ces trois lauréats lors de la Vegan Place du 28 juin. Et lors de cette Vegan Place du 28 juin, il y aura lieu au centre-ville de Tours, hein, sur le... Alors, je ne sais jamais si c'est le boulevard
Hortelou.
Voilà, ou le boulevard Béranger, parce que je ne sais jamais à quel moment lequel commence et lequel se termine. Mais bon, vraiment... Voilà, quasiment à la confluence des deux, du coup, vraiment au centre. Et il y aura aussi à 10h30 une conférence de Paul Watson et Peter Singer au Vinci, donc juste à côté. et je vous laisse raconter un petit peu ce qui va se passer autour de cette Vegan Place et notamment de cette conférence exceptionnelle.
Oui, effectivement, comme tu le disais, Guillaume, sur cet événement qui s'appelle Vegan Place, on s'est beaucoup posé d'ailleurs la question avec Claire et l'équipe, est-ce qu'on devait changer le nom de Vegan Place pour être, pour faire moins peur, parce que des fois le mot vegan peut faire peur. Mais finalement, en fait, on souhaitait vraiment que cet événement soit le plus inclusif possible. Et donc, pour n'oublier personne, voilà, nous souhaitons conserver le nom de Vegan Place. Donc, tout est vegan, donc même pour raisons religieuses, enfin, tout le monde peut venir, tout le monde peut manger, tout le monde peut profiter. Et c'est important pour nous. C'est un événement gratuit, on ne l'a pas précisé, qui sera de 10h à 18h, donc sur le boulevard Horteloup, entre l'Hôtel de Ville et le Vinci. Et donc cette année, nous avons la chance d'avoir deux grands noms de l'écologie mondiale, que sont Paul Watson et Peter Singer. Paul Watson est plutôt, peut-être un peu plus connu du grand public. Il a fondé Greenpeace, il a fondé Sea Shepherd. C'est quelqu'un qui a été emprisonné il n'y a pas longtemps au Groenland pour ses actions vers les baleiniers. Donc je pense qu'il est peut-être un peu plus connu du grand public. Après, on a Peter Singer aussi, qui est un grand nom de la philosophie. Pour beaucoup, il est considéré comme le philosophe le plus influent du monde, le philosophe vivant le plus influent du monde. Il a travaillé énormément sur la notion de spécisme. C'est lui qui l'a... Il ne l'a pas inventé, mais il l'a popularisé. Et donc, il est très connu du monde intellectuel et du monde militant. Et je pense que c'est vraiment une grande chance d'avoir deux noms comme ça avec nous, en plus à Tours, sachant qu'à notre connaissance, il n'y a jamais eu de rencontre entre ces deux grands hommes en Europe. Donc, ça va être vraiment une première européenne. Et c'est un événement qu'on a surtout en plus pensé pour qu'il soit aussi toujours avec notre choix, qu'il soit le plus inclusif possible. Donc on a fait un événement à prix libre.
Oui, alors si la Vegan Place est gratuite, comme l'a dit Emilien, c'est-à-dire que dans la Vegan Place, ben, vous pourrez vous balader sur le boulevard Horteloup et rencontrer des artisans qui sont engagés dans le véganisme, des associations, des artistes. Par contre, la conférence entre Paul Watson et Peter Singer, elle, n'est pas gratuite, elle est payante, elle se passe au Vinci. Mais on a fait un prix libre, c'est-à-dire que vous devez vous inscrire et réserver votre place en ligne. On pourra redonner peut-être le lien sur la page de l'émission. Et c'est à partir de 1 euro, hein, donc c'est prix libre. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut réserver la place et il ne reste plus tant de place que ça, donc dépêchez-vous.
Exactement, la réservation est obligatoire. On a une salle de 690 places. Nous avons déjà presque 600 places de réservées. Donc voilà, pour les retardataires, ne tardez pas trop.
Alors je veux juste signaler qu'on mettra évidemment tous les liens, mais je ne sais pas à quel moment je vais avoir la possibilité de finaliser le podcast et d'avoir toute l'archive de l'audio. Donc je veux juste dire à nos auditeurs, auditrices, si vous voulez assister à cette discussion croisée Peter Singer, Paul Watson, si vous allez sur Google et que vous tapez Singer Watson Tour, toutes les premières réponses sont liées à cet événement et la troisième est le lien vers Hello Asso, parce que c'est Hello Asso.
Oui, c'est Hello Asso.
C'est par Hello Asso, donc voilà, donc vous allez sur Hello Asso, parce que sinon après l'URL est un peu longue à lire à l'antenne, mais voilà, si vous tapez Singer Watson Tour, c'est pas très compliqué, Singer comme un chanteur, Watson, je crois que tout le monde le connaît, et mais c'est aussi le voilà élémentaire en cher Watson, donc ça s'écrit pareil. Donc effectivement, il y aura cette rencontre et pendant que vous parliez de cela, je voulais juste rappeler que Peter Singer, il est notamment connu pour un livre fondateur et fondamental de 1975, La libération animale, et je cherchais le nom des traducteurs, et il y en a quatre en fait, puisque l'édition de Poche Payot, il y a des Peter Singer a écrit des textes, a remanié une partie du livre, ouais. Donc je pense qu'il y a des parties qui ont été traduites en 75 ou pas longtemps après,
ouais.
Et d'autres plus récemment, donc je vais quand même citer les quatre traducteurs et traductrices: Françoise Bouillot, Johann Frédéric Elgage, Gabriel Pozzo di Borgo et Pierre Régnier. Et c'est 12 euros chez Payot Rivage. Donc c'est comme pour le livre de Charlie Gilmore, on ne se ruinera pas en achetant ce livre. Et on pourra le faire signer le jour J. Autre chose à ajouter par rapport à cette conférence, discussion croisée?
Ce qu'a dit Émilien Avray, hein, c'est quand même quelque chose d'unique en fait. Ces deux grands penseurs, hein, quel que soit ce qu'on pense de ce qu'ils disent, c'est quand même des gens importants, c'est deux grands penseurs. Ils ne se sont jamais rencontrés, c'est rencontrés peut-être, mais ils n'ont jamais conversé publiquement comme ils vont le faire. Et c'est intéressant, hein, parce que ça, je pense que ça va être intéressant, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Hein, de côté, un intellectuel, effectivement, hein, Peter Singer, qui est un philosophe australien. Alors, comme l'a dit Emilien, on dit souvent que c'est le philosophe le plus influent, contemporain le plus influent, mais le philosophe le plus influent contemporain, il reste toujours moins connu qu'un activiste qui va se mettre avec sa flotte devant les baleiniers. Hein. Voilà. Et donc, d'un côté, on a un intellectuel, on a un penseur, et de l'autre côté, on a un activiste, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va littéralement au combat, hein, parce que c'est ça, Paul Watson, hein, et Sea Shepherd. Et donc, voilà, ça va être intéressant de voir comment, en fait, leur discours se croisent, sur quoi ils convergent. Ils vont converger sur beaucoup de choses, je pense. Mais effectivement, c'est voilà, d'un côté, on a la réflexion et d'un autre côté, on a l'action. Et comment est-ce que les deux sont liés? Je pense que ça peut être assez passionnant, tout cet échange.
Et donc, chose importante à préciser, donc, parce que les deux sont anglophones, nous aurons la présence d'un traducteur professionnel, Philippe Bignet, qui sera là. Et la conférence sera animée par Élodie Vieille-Blanchard, qui est également anglophone, mais qui fera également des traductions. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas anglophone, vous pourrez suivre cette conférence sans souci.
Tout à fait. Okay.
Et effectivement, Claire, tu disais que Peter Singer n'a pas la notoriété de Watson. Le groupe Trio n'a pas écrit de chanson pour Peter Singer. Il y a une chanson de Trio, je vérifiais, qui a quand même
bien
presque
sûr
6 millions de vues sur YouTube.
Tout à fait.
Watson, tout simplement, et que certains ici sans doute connaissent.
Oui, tout à fait.
Donc voilà. Donc,
sa notoriété n'est pas une notoriété de grand public, mais il a une notoriété dans le milieu de la pensée, et pas que philosophique, hein, dans la pensée. C'est un des pères, on peut le dire quand même, hein, de l'antispécisme. Hein. Son livre fait l'effet d'une bombe, hein, quand il est publié. Hein.
Et on a beaucoup d'anciens militants, des militants qui ont milité depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont devenus militants grâce à Libération Animale de Peter Singer. Mmh. On a eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de mails, des appels, des SMS, de gens qui étaient assez étonnés de voir ce nom-là.
Vous arriviez à faire venir
Peter
Singer à Tours.
Parce
que
nous, ouais.
Vous dites que c'est exceptionnel d'un point de vue mondial d'avoir une discussion publique entre les deux, et c'est important de le souligner. C'est-à-dire que Tours sera un peu le centre du monde de ce point de vue-là et du point de vue de ces questions-là et de ces combats-là. Et ce n'est pas une exagération, mais je pense que si l'un des deux seulement était venu, ça aurait été effectivement un événement en soi déjà pour Tours. Peter Singer n'est jamais probablement venu parler à Tours de manière publique, et Paul Watson probablement pas non plus. Si, une fois, apparemment,
Emilia
me fait signe que si.
Je pense que l'événement, c'est la venue de Peter Singer encore plus peut-être que celle de Paul Watson, parce que Peter Singer, pour le coup, n'est jamais venu à Tours. Alors, il est déjà venu en France, mais il est plus économe aussi de ses paroles, en fait. Paul Watson, encore une fois, c'est un activiste, donc forcément
il est passé au journal télévisé français,
voilà, il bat la campagne, il est là, il est présent, il est
donc très bien, très bien.
Après, on peut compléter que, parce qu'on parle de la conférence à la Vegan Place, mais il y a aussi beaucoup d'autres événements, en fait. Mmh. Et notamment, on a le studio mobile de Radio Campus avec Jérémy, qui sera présent comme tous
les ans. Notre collègue d'ABC des Vegues, que
exactement
l'on a entendu tout à l'heure en début d'émission et qu'on resalue.
Et nous avons trois plateaux radio, trois tables rondes qui sont prévues. Donc c'est des événements, c'est un événement qui est gratuit, donc il y aura des chaises autour du studio mobile et les gens pourront écouter en direct les interventions. On aura à 14h la rencontre avec les lauréats du Prix Maya, donc Charlie Gilmore, Nicolas Joliveau et François Sarano. La traduction de Charlie Gilmore sera faite par justement Guillaume.
Effectivement. Si je devais vous dire un truc, c'est plutôt de ne pas venir, parce que je n'ai jamais fait ça, interprète. Je ne suis pas interprète.
Venez le voir se vautrer.
Ça risque d'être un peu ça. Il y aura au moins Charlie Gilmore et les deux autres. Et puis si vous parlez l'anglais, ça ne sera pas grave que je ne fasse pas bien le travail. Donc ça, c'est à 14h, absolument.
À 15h30, on aura pensé les liens entre patriarcat et exploitation animale, avec justement Émilie Dardenne, qui fait partie du jury du Prix Maya et qui est professeure d'université.
Tu étais présidente du jury cette année
Non, il n'y a pas de président.
Ah,
on est
démocratique.
On n'est pas pyramidal.
On a une marraine du prix qui est Florence Zellery, qui est une illustratrice scientifique, qui est là depuis quelques années en tant que marraine du prix. Et après, au niveau du jury, non, ils sont tous au même niveau.
Autant pour moi.
Donc sur cette table ronde, donc, il y aura Émilie Dardenne, il y aura également Lila M, qui est créatrice du conte Réfuté sur les luttes sociales et esprit critique. Et on aura... on avait Camille Silver qui était prévue dans la communication, mais effectivement Camille Silver a dû annuler sa présence.
Et le troisième plateau.
Le troisième plateau, ce sera Comprendre l'antispécisme et le sentientisme, avec justement notre marraine Florence Delry, et également Orlando Bento, qui est créateur de Réplique éthique, qui est un conte de pensée critique et philosophique.
Ouais. Bon, il va falloir que je mette tous les liens de tous ces différents intervenants. Je vais avoir une grosse webliographie à mettre sur le compte. Ça, c'est à 17h, la troisième table ronde ?
C'est à 17h, tout à fait.
D'accord. Donc, toutes les heures et demie, 14h, 15h, 30, 17h.
Et ensuite, on finit en beauté avec, pour la première année, un partenariat avec le cinéma Le Studio, que je pense que tous les Tourangeaux connaissent bien, avec la projection du film Lynx de Laurent Gesselin. Donc, il sera à 19h au studio. Projection de ce documentaire et ensuite un débat avec Sophie Weiser, qui est vétérinaire, vice-présidente de l'association Code Animal, et également Pierre Lucot, qui est responsable du pôle nature du mouvement Utopia et qui, tous les deux, sont dans le jury du Prix Maya.
Exactement. Donc, si vous avez bien écouté et bien compris, ça veut dire que vous pouvez être...
Il y a la prof qui reprend la mer.
Que vous pouvez être toute la journée sur la Vegan Place sans vous ennuyer une seule minute. Et on peut y manger sur la Vegan Place, bien sûr, parce qu'il y aura des food trucks vegan, bien entendu, ce qui est une excellente manière, pour ceux qui ne le connaissent pas, de s'initier à la cuisine vegan.
Et de découvrir qu'on mange, on peut manger très bien, très équilibré.
Ne pas oublier également qu'il y a deux belles expositions.
Oui, donc vraiment, il faut, je suis sûre que ceux qui viendront à Vegan Place n'en sortiront qu'à 20h.
Voilà.
Après le film.
Très bien. Donc ça, c'est le 28 juin. Donc on n'oublie pas, 28 juin 2025. Eh bien, merci à tous les deux. On va pouvoir lancer le générique de fin dont je dirai 2-3 mots. Excusez-moi, vous avez dû m'entendre marmonner des choses. Mes invités me faisaient remarquer qu'on n'entendait pas le retour dans le studio. On a dû m'entendre marmonner des bêtises, n'est-ce pas ? Eh bien, merci d'avoir écouté la 15e émission d'I Love Mes Cheveux. Merci à Claire Tasté et Émilien Cousin-Amelal de l'association EducPop Animalista qui organise le prix Maya depuis 2018 et la Vegan Place de Tours. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci.
On rappelle donc, je crois qu'on l'a compris, que c'est le samedi 28 juin, toute la journée, avec conférence de Paul Watson et Peter Singer le matin à 10h30 au Vinci. Inscrivez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Alors, la musique de générique choisie là aussi par nos invités, c'est un autre titre des Pink Floyd, composé, je crois, pour celui-ci par David Gilmour, le père adoptif de Charlie Gilmour. Et comme ça dure 11 minutes, on va le laisser jusqu'au bout. Et pour une fois, ça me gêne moins de parler par-dessus, parce qu'il va rester un peu de temps pour l'écouter quand même. Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, le compte Insta est là, ILMC 2025, tout attaché. Et on se retrouve la semaine prochaine. Non, je dis des bêtises. Oui, si, la semaine prochaine, je vais y arriver. Avec Norbert Danis, pour parler de traduction, et notamment de traduction de bandes dessinées chinoises. Voyons, on parlait de ça tout à l'heure avec nos invités, de la grande vitalité des bandes dessinées d'Asie. Donc il y a une continuité entre les émissions. Et le 30 juin, avec trois collègues de l'université, Claire Durand, Florence Raymond, Christine Clément, qui viendront nous parler de Neolaya, et notamment d'une mission exercée en Chine. Décidément, il y a de la Chine. Bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. Je vous laisse avec Pigs, Three Different Ones de Pink Floyd. C'est bon, il y en a encore pour 7 minutes et demie. Au revoir.